merci d'accueillir. Donc, on va animer cette réunion avec Raphaël Bauty, qui est assis pour l'instant, mais qui prendra la parole dans un deuxième temps. Ce que nous vous proposons, donc, c'est de consacrer, disons, une demi-heure, trois quarts d'heure, autour des ambitions et du cadre général habituel d'élaboration et de classement d'un parc naturel régional, puisqu'en fait, on s'inscrit dans une organisation et un cadre juridique bien particulier. Donc, je vais vous rappeler quelques-uns des éléments en essayant d'être le plus concret possible. Je vous promets de ne pas lire le code de l'environnement avec vous. La deuxième chose, c'est que d'ici trois quarts d'heure, on abordera un deuxième thème qui est plus un échange autour des enjeux et des... on abordera donc un échange pendant une heure sur les enjeux qui peuvent éventuellement amener les orientations et les objectifs de travail de la prochaine charte. Donc je passerai la parole à Raphaël. Et puis on gardera un petit point conclusif pour regarder comment on continue à travailler ensemble après cette réunion cet après-midi. Deux informations pour que vous ayez cela en tête, justement concernant cette organisation post-réunion. La première, c'est qu'on va vous faire passer une feuille, enfin trois feuilles exactement, qui sont, c'est un peu improvisé, mais c'est une feuille qui vous permettra de vous inscrire pour la réunion du 13 mars, qui sera une réunion de restitution. Excusez-moi. Voilà. Donc, le 13 mars, nous aurons un forum de discussion et de consolidation et de présentation des premières synthèses de nos travaux. Donc, si vous avez la possibilité d'agir le 13 mars après-midi, merci de bien vouloir vous inscrire, en précisant éventuellement s'il y a une thématique sur laquelle vous souhaiteriez échanger de manière un peu plus détaillée, parce que cet après-midi va passer très vite. Les réunions cantonales ne permettront pas nécessairement d'aller toujours dans le détail. Donc, le 13 mars, l'idée, c'est après une présentation un peu synthétique des premières conclusions de nos travaux, c'est de discuter en quatre commissions, quatre ateliers de travail, un sur l'économie, un autre sur les patrimoines naturels, un autre sur le patrimoine social et culturel, et un dernier peut-être un sous-aspect de l'environnement qui concerne la préservation des ressources. Donc si vous pouvez déjà nous donner une petite température du nombre de gens qui pourront être là le 13 mars, et la thématique, donc environnement et nature, disons, environnement mais plutôt ressources, patrimoine social et culturel et économique, si vous pouvez vous inscrire d'avance, ça nous donnera une petite idée du nombre de participants à cette réunion. On fera certainement une information complémentaire avec François, mais si vous pouvez d'ores et déjà nous donner une petite un peu de température sur cette réunion. Deuxième élément, donc la plupart d'entre vous, je pense, a dû recevoir un petit questionnaire d'enquête. Donc Raphaël en reparlera tout à l'heure, donc on voulait remercier ceux qui nous avaient déjà répondu. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il est encore temps, vous avez encore quelques jours pour nous transmettre ce questionnaire. On en parlera tout à l'heure. C'est un des éléments qui nous semblait important pour réfléchir aux enjeux et aux orientations de la future charte. Il y aura également les réunions cantonales qui commencent dans quelques jours et qui permettront de sillonner le territoire et de recueillir l'avis. En plus des socioprofessionnels, l'avis cette fois-ci des habitants, mais ce sera aussi l'occasion de réunions avec les conseillers municipaux des communes. Ensuite, nous verrons à l'occasion du forum du 13 mars, et les commissions, les ateliers qu'on aura mis en place le 13 mars, on les réunira à nouveau certainement une deuxième fois, voire peut-être une troisième fois, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc tout ça pour dire que la réunion de cet après-midi, c'est une étape dans un processus. Et l'idée étant d'avoir comme objectif d'ici l'été, d'avoir un projet rédigé de la charte du parc naturel régional et sa déclinaison spatiale, qui est une cartographie qu'on appelle le plan du parc. Voilà, donc ces mots introductifs, s'il n'y a pas de questions préliminaires, ce que je vous propose, c'est de commencer un petit exposé d'une demi-heure, plus pour vous rappeler le cadre général dans lequel le parc doit s'inscrire et le projet du parc doit s'inscrire. Je le disais ce matin en réunion préparatoire, la charte d'un parc naturel régional, ce n'est pas la somme des besoins et des envies de tous les acteurs du territoire. Je souscris à l'enthousiasme de mes prédécesseurs, M. Astieri, mais je pense qu'il faut aussi prendre conscience que dans le projet de parc naturel régional, il y a une dimension qui est de répondre à je dirais, des missions qui ont été confiées par le niveau national et par décret, hein, et qu'il faut rappeler, dans lesquelles il faut s'inscrire. Donc, il y a certainement des sujets sur lesquels le parc ne pourra pas travailler parce qu'il n'est pas de sa mission de s'en occuper. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler pendant nos réunions, mais il faut savoir que l'action et les moyens dont disposera le parc naturel régional sera limité quand même sur un certain nombre de priorités. Les priorités, ce sera le croisement entre vos besoins, vos problèmes, les défis de demain pour le territoire, et les missions qui sont confiées à tous les parcs naturels régionaux en France et sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Donc, ça, c'est pas tellement pour casser l'enthousiasme, mais c'est pour qu'on on cadre bien quand même le sujet du travail et qu'on ne s'écarte pas trop dans une ambition qui serait démesurée, voire à côté des missions et des compétences qu'on peut donner à une organisation telle que celle-ci. Voilà. Donc, ce que je vous propose, je fais une petite présentation et du cadre général. Alors, tout à l'heure, dans la discussion, on vous distribuera un document, parce qu'on ne sait pas qu'il se passe si beau que ça, parce qu'on nous a dit qu'il y avait beaucoup de neige, enfin, je m'attendais à un hiver un peu rude, finalement, on ne peut pas se mettre un petit chat. Donc du coup, peut-être que les diapositives, les premières ne sont pas très visibles, mais dans le document qu'on vous donnera d'ici trois quarts d'heure, vous aurez l'intégralité du document. Par ailleurs, si vous le souhaitez en couleur, vous pourrez y accéder sur notre site internet, www.edater.fr, Parc Naturel Régional, et vous trouverez les documents au fur et à mesure que les travaux vont avancer, vous aurez accès aux synthèses, aux conclusions de nos travaux, enfin des travaux que nous faisons ensemble. Donc, ce que je vous propose, c'est de répondre, enfin, de vous donner quelques éléments sur qu'est-ce qu'un Parc Naturel Régional. Le projet PNR des Préalpes et les critères nationaux, donc ça je vais le faire très très vite, puis je lancerai une discussion au cas où il y aura encore des questions. Je pense que vous y travaillez déjà depuis pas mal de mois, donc il y a certainement des choses que vous connaissez déjà, donc je n'y reviendrai pas nécessairement, mais s'il y avait de nouvelles questions, n'hésitez pas à les poser, et puis dans un deuxième temps, je passerai la parole à Raphaël. Alors, quel est l'impact? Je parlais tout à l'heure du filtre. Votre projet de territoire doit répondre à vos besoins, vos problèmes, les enjeux qu'il y a sur le territoire et les orientations. Le pays auquel vous aspirez et auquel vous aspirez pour vous et pour vos enfants, mais en même temps, ça doit répondre à un certain nombre d'objectifs qui sont fixés par des textes nationaux. Le décret de 2005, l'ancien décret de 95 mis au jour, au bout du jour en 2005, c'est bien d'une part de protéger le patrimoine à travers une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages. Ça, c'est une mission centrale. Donc, il faudra que dans le projet qu'on va écrire ensemble, on dise qu'est-ce qu'on fait par rapport à cet objectif, cette mission qui est proposée par le cadre national. Je passe au numéro 4, je vous explique ça après, faire quoi, qui est assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public. C'est une mission essentielle. Il y a peu de structures, maintenant ça se fait de plus en plus, mais au départ il y avait peu de structures qui faisaient de la sensibilisation, de l'information, qui accueillaient les enfants, qui faisaient des classes vertes, etc. Maintenant ça se fait beaucoup. Maintenant les nouveaux enjeux, c'est d'éduquer les grands, c'est pas d'éduquer que les petits, c'est d'éduquer aussi les adultes. Et vous avez tous autour de vous dans vos activités ce sentiment de devoir informer, expliquer pourquoi il faut faire comme ci et pas comme ça dans la nature, comment on peut travailler à la fois sur du développement économique et en même temps préserver ou valoriser l'environnement. Donc il y a un travail d'information, de pédagogie qui est important, qui est confié aux parcs naturels régionaux. Il y a une troisième mission qui est confiée aux parcs, qui est de réaliser des actions expérimentales. C'est-à-dire vous avez le droit de vous tromper si vous acceptez d'aller faire des sentiers, hors sentier battu, c'est-à-dire d'aller sur des problématiques ou des problèmes sur lesquels peu de gens ont travaillé et d'essayer d'innover ou d'aborder le sujet de manière un peu différente. C'est ce travail d'expérimentation auquel on rattache également les programmes de recherche. Je vous dirais tout à l'heure qu'à côté d'un parc naturel régional, il y a souvent un conseil scientifique qui permet aussi de faire avancer la science et la recherche sur certains sujets, notamment sur la biodiversité. Donc, cette fonction de recherche et d'action expérimentale est une mission un peu distinctive pour les parcs naturels régionaux par rapport aux autres projets territoriaux. Donc ça, ce sont les trois missions un peu fortes sur lesquelles vos parrains, que sont l'État, mais aussi la région, les instances nationales comme le Conseil national de la protection de la nature ou la Fédération des parcs, ont une attente. Et donc ils regarderont votre projet de territoire au regard de ces critères-là. Donc c'est bien ces trois critères-là, auxquels on rajoute deux critères qui sont plus ambitieux et nécessairement partagés avec d'autres instances, contribué à l'aménagement du territoire. On est sur un territoire qui est très révélateur du point de vue de son organisation spatiale, avec littoral, montagne, avec est-ouest. On a une organisation face auxquelles il y a des enjeux d'organisation, de solidarité communale ou territoriale. Et les actions que vous pourrez mener pour essayer de conforter, consolider le maillage du territoire, ça peut rentrer dans le champ de l'action du parc. Et enfin, le dernier élément, c'est un élément non négligeable, puisque c'est le qui distingue des parcs nationaux dont on parlait tout à l'heure. Ici, on est sur un territoire où il ne s'agit pas uniquement de préserver ou de protéger, il s'agit aussi d'inventer une forme de développement économique, social, culturel, qui prennent en compte les spécificités et les patrimoines particuliers de ce territoire. Donc c'est comment faire du développement économique, du développement social, du développement culturel, avec ce qui fait la richesse et la fragilité en même temps du territoire. Donc ça, ce sont 5 missions. Ça me semble fondamental de l'avoir bien à l'esprit, de manière à ce que ça nous serve un petit peu de guide. Hein. C'est quand même dans ces orientations-là qu'il faut pouvoir inscrire le projet, au moins. Après, vous pouvez être plus ambitieux s'il y a beaucoup d'énergie, comme je sens le mesurer un petit peu. On peut aller un peu au-delà. Mais il faut à minima essayer d'inscrire les orientations et les actions futures dans ce cadre-là. Le deuxième élément, c'est un élément important, mais sans doute, on vous l'a déjà un peu dit, on avait fait déjà une première réunion à l'automne avec certains d'entre vous, la question des sous-contraintes est une mauvaise question. C'est-à-dire que nous, on préfère parler d'ambition. Il se trouve qu'ensuite, l'ambition, ça demande un effort à tout le monde. Mais c'est moins une question de contrainte qu'une question d'ambition. D'ailleurs, la charte du parc naturel régional n'a pas a très peu d'influence réglementaire ou de prescription sur les autres actes quotidiens du territoire. La charte, par exemple, ne s'impose pas, à la différence des parcs nationaux, ne s'impose pas à un tiers. La charte, c'est un document auquel les communes et les collectivités adhèrent. Elles s'engagent avec des partenaires, donc elles prennent un engagement qui est plus ou moins ambitieux en fonction des possibilités locales. Et derrière cet engagement, ensuite, effectivement, ça peut constituer des contraintes pour certains. Parce que forcément, une ambition, hein, on commence comme bien le fameux adage sur la liberté, hein, ça reste là où commence celle des autres. Donc, il y a une question de négociation entre les différents acteurs, entre les gens qui utilisent la nature à des fins touristiques et ceux qui l'utilisent à des fins économiques comme les agriculteurs, entre les gens qui ont besoin d'habitat pour vivre et d'une maison et ceux qui disent mais construisez pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc c'est une question de modération et de consensus qu'il faut travailler. Et la charte avant tout c'est un document de négociation et de pédagogie. C'est avant tout cela avec un engagement des collectivités à s'inscrire dans un certain nombre d'objectifs. Par contre, il y aura trois possibilités de contraintes que pourra imposer la charte, que vous pourrez vous imposer sur le territoire. Une qui concerne le plan du parc, c'est cette cartographie dans laquelle on transcrit les ambitions. On peut dire, sur cette zone-là, hein, c'est très schématique, mais on peut dire sur cette zone-là, c'est une zone à préserver très fortement et on souhaite mettre les moyens pour préserver cet espace-là. Donc, une banane bleue, verte, et on dit sur cet espace-là, on a, et à ce moment-là, les plans locaux d'urbanisme devront vérifier que dans leur plan, on est à peu près cohérent. Il n'y a pas une exactitude, parce qu'on ne parle pas à la parcelle, mais il faut que le sens qu'il y a dans le plan de parc soit commun, ou en tout cas partagé et cohérent avec le plan local d'urbanisme. Deuxième élément de réglementation possible, c'est la publicité, puisque le parc naturel régional est invité à mettre en place une zone de publicité restreinte de manière à ne pas voir fleurir dans tous les coins des panneaux, des sucettes, des publicitaires, n'importe comment. Ça se fait évidemment avec ceux qui sont bénéficiaires de cette publicité, mais voilà, c'est une des missions, ça peut être commerçant, ça peut être un emploi, etc. Mais c'est une des missions que les parcs font en France, et à notre sens, tout ce qui est fait, voilà, c'est une mission, ça demande un peu de travail, 2-3 ans de travail, mais ça se fait assez bien. Et le troisième élément, c'est éventuellement de mettre en place une réglementation sur la circulation des engins motorisés dans les parcs fragiles, on les voit notamment qui pourraient être ouverts à terme. Donc il y a une mission pour le parc et une possibilité de dire voilà, on a une ambition, c'est de canaliser certaines circulations, ce n'est pas évidemment en route goudronnée, de canaliser dans cette direction l'usage, l'emprunt de ces chemins par les véhicules motorisés. Donc, pas de réglementation nécessairement, mais un document qui va permettre d'améliorer la qualité et l'usage des espaces. juste un mot sur la gestion de la charte et la responsabilité de la charte. En fait, la charte, elle est de la responsabilité syndicaliste, donc du groupement commune, syndicaliste, qui a vocation à gérer. Hein, c'est un syndicaliste de gestion. Donc en fait, la gestion revient au syndicaliste. Le syndicaliste est un regroupement de collectivités locales, qui a obligatoirement le conseil régional participe, et très souvent le conseil général, en plus des communes et des communautés de communes. Donc c'est un outil de gestion, c'est lui qui a la responsabilité. Il a un conseil syndical, un bureau. Il est aidé, je le disais tout à l'heure, d'un conseil scientifique pour éventuellement travailler sur certaines pistes un peu complexes, un peu pointues. Hein, et donc un conseil scientifique est mis en place avec des universitaires de Nice, de Marseille, enfin, en fonction du sujet, et qui va être un peu une instance de conseils scientifiques auprès du parc. Après, on peut avoir d'autres organisations, il y a les commissions de travail qui peuvent pérenniser, on va mettre en place des commissions de travail pour élaborer la charte, elles pourraient tout à fait se pérenniser de telle ou telle manière et permettre de continuer à contribuer à la gestion et à la mise en œuvre de la charte. Le financement, donc c'est un financement qui est partagé entre le prescripteur de la création, qui est le conseil régional, hein, la loi dit que c'est le conseil régional qui prescrit la création. La définition du projet, ce sont les acteurs locaux et les communes qui le font. Donc elle finance aussi une partie essentiellement du syndicalisme. Le conseil général est très souvent un partenaire financier important. Et puis on peut avoir d'autres partenaires en fonction des programmes d'action. L'ONF peut financer des actions. Il peut y avoir des actions financières des consulaires. On peut avoir des actions partagées avec d'autres organismes, les agences de l'eau, les fonds européens. Donc, on a des montages après en fonction de la nature. Pour les communes, les représentants des communes éventuellement qui sont dans la salle, habituellement ce qui se passe dans le financement, c'est que les communes en adhérant à la charte s'engagent, ça c'est une première chose, s'engagent à participer et à mettre en œuvre un certain nombre d'orientations politiques, et en même temps elles participent financièrement en donnant une cotisation au titre statutaire, c'est un montant par habitant. De manière un petit peu solidaire. Et souvent maintenant, les communautés, les groupements de communes contribuent également au financement. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en règle générale, il y a un effet de levier de 1 euro pour 9 euros. C'est-à-dire que pour une commune qui, pour la totalité des communes qui contribuent à hauteur de 1 euro au financement de la structure, en fait, ça permet de générer 9 euros, enfin 8-9 euros de la part d'autres cofinanceurs, des grandes collectivités ou d'autres financements européens. La question des moyens renvoie également aux moyens techniques. Une des valeurs ajoutées des parcs naturels régionaux, c'est d'avoir une équipe technique qui va s'étoffer petit à petit. Pour l'instant, elles sont deux et en quatre bras et deux têtes. Elles font beaucoup de choses, mais ça ne va pas suffire. Donc, il faudra très vite imaginer de consolider cette équipe. On vous a mis un graphique très simplifié pour dire que, en règle générale, un parc naturel régional qui commence avec 2, 3, 4 personnes, au bout de 10, 15 ans, dispose d'une équipe de 15, 20, 25 personnes, des techniciens spécialisés dans l'architecture, dans l'environnement, dans la politique de l'eau, dans la politique agricole, bon, ça dépend des sujets de la charte, mais en tout cas, il y a une équipe technique qui petit à petit s'étoffe et qui va constituer un noyau technique à disposition des acteurs et des communes. Les communes et les communautés communes ne peuvent pas du personnel traiter de manière pointue certains dossiers. Une des associations des acteurs locaux qui sont dans le projet, c'est important d'avoir à l'esprit que une des valeurs ajoutées, c'est quand même la disponibilité d'une équipe technique pour faire avancer les dossiers. Moi, je ne connais pas de dossier qui avance tout seul dans la nature. Les gens travaillent dessus. Les bénévoles, c'est bien, les élus, c'est bien, mais des fois, d'avoir des techniciens un peu spécialisés pour monter les dossiers socio-administratifs, c'est un service. Après, sur qu'est-ce que ça peut apporter le parc, toujours dans l'idée de mettre à niveau tout le monde, parce que je ne sais pas si tout le monde a cette information, on a mis quelques exemples de ce qu'un parc naturel régional peut apporter sur un territoire avec quelques acteurs. Ce qui est sûr, c'est que le fait de disposer d'une équipe technique, ça va pouvoir rendre des services dont je parlais tout à l'heure. Une commune qui veut réviser son plan local d'urbanisme, qui n'a pas nécessairement les moyens et qui veut travailler avec un soutien, ou plusieurs communes qui veulent élaborer une petite charte paysagère pour essayer de favoriser un aménagement, une organisation spatiale du territoire de manière un peu qualitative, elle a la possibilité, s'il y a un technicien, un spécialiste paysagiste ou un architecte urbaniste, si elle veut travailler, elle a la possibilité de s'appuyer sur le concours de cette personne. Il y a un appui éventuel pour monter ou faire avancer certains dossiers. Pour dans le domaine agricole, ça permet d'avoir, en plus des techniciens agricoles de la Chambre d'agriculture, d'avoir éventuellement un relais pour développer un peu des projets qui sont des projets pas uniquement agricoles, mais qui sont à la fois sur l'agriculture et l'environnement, l'agriculture et le tourisme. Évidemment, les techniciens de la Chambre d'agriculture le font déjà un peu, mais parfois, comme on a quand même beaucoup de dossiers, on peut imaginer de travailler sur des dossiers que la Chambre d'agriculture n'aurait pas pu développer par manque de moyens, et du coup, les techniciens agricoles du parc peuvent venir renforcer. Ça peut être aussi des sujets qui sont plus liés au foncier agricole, hein, le fait de savoir travailler sur les enjeux, la pression foncière urbaine, ça permet de travailler sur comment on fait pour préserver du foncier agricole, travailler sur le sujet, réunir les gens, faire évoluer les plans locaux d'urbanisme, réserver de l'espace foncier agricole, etc. Donc le fait d'avoir à disposition un technicien qui va en plus mutualiser son expérience acquise dans une autre commune ou qui aura pu travailler avec d'autres parcs naturels régionaux en PACA, ça permet de récupérer des expériences, des manières de faire, et ça parfois ça amène quelques solutions auxquelles on ne pensait pas. En matière de développement économique, le fait d'avoir un technicien et une expérience dans un parc, ça permet de développer des actions économiques dans un souci de préservation de l'environnement, de mettre en place des systèmes de management environnemental dans certaines entreprises, de développer éventuellement des bâtiments un peu, c'est pas passif, mais au moins ayant un respect et un équilibre dans la consommation et la production d'énergie. Donc, ça développe, ça donne la possibilité éventuellement de développer des projets économiques qui intègrent de manière plus ambitieuse certains enjeux environnementaux, au-delà des simples règles, enfin de la simple réglementation. Voilà, donc c'est quelques exemples comme ça tirés au hasard, je ne voulais pas être exhaustif, mais simplement dans l'éventualité où des questions vous seraient posées, je voulais que vous ayez en fait la possibilité de répondre à certaines questions. Alors, du point de vue de la démarche où en sommes-nous, donc en fait il y a eu tout un travail qu'on a rappelé tout à l'heure les éléments d'introduction. Là, on est dans la phase finale de rédaction de ce qu'on appelle l'avant-projet. Donc en fait, on a 6 mois devant nous pour rédiger cet avant-projet. Cet avant-projet, à l'automne, il est transmis aux instances, il y a une navette administrative, et il nous reviendra pour qu'on fasse des corrections à la fin de l'année ou début de l'année prochaine plutôt. Et c'est seulement après cela qu'on enclenchera un certain nombre de corrections, qu'on fera l'enquête publique, puisque c'est un des documents, comme d'autres documents d'urbanisme, c'est un des documents qui fait appel à l'enquête publique, donc il y aura consultation de la population. Et après, il y a consultation et avis des différentes collectivités et engagements, et c'est seulement après que le dossier sera transmis au ministère et que vous obtiendrez le label, probablement fin 2010, si les délais administratifs et les différentes navettes des consultations sont respectées. Donc voilà, donc là, on est sur la première phase un peu critique, qui est comment rédiger à 90, plus tous ceux qui seront en réunion cantonale, plus tous ceux qui seront au premier forum, donc à 150 personnes, comment on fait pour rédiger un seul document. Donc c'est vraiment pas nécessairement facile. Hein. Donc, mais c'est un moment très critique, et c'est un moment à la fois très intéressant, parce que c'est celui qui permet de créer à la fois un dialogue et de s'entendre sur un consensus dans des priorités, et puis de prendre aussi la mesure de choses qu'on ne pourra pas faire parce que c'est compliqué de vivre ensemble et de travailler ensemble et d'avoir exactement les mêmes objectifs. Donc il faut essayer de trouver le plus petit dénominateur commun au regard des projets, des besoins du territoire et en même temps au regard des missions qui sont fixées par le parc naturel, par le décret pour les parcs naturels régionaux en France. Ça, je passe très vite parce que ça a été rappelé tout à l'heure en réunion. Vous l'avez déjà un petit concept que vous aurez dans le document. Et dernier élément avant d'enclencher une première discussion ou une question-réponse, après on passera la parole à Raphaël pour la partie analyse du territoire. Simplement que le classement d'un parc naturel régional se fait à condition qu'on soit sur un territoire à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel, paysager et culturel riche, menacé faisant l'objet d'un projet de développement fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine. Donc ça, c'est un élément important, c'est-à-dire que pour être classé parc naturel régional, il faut satisfaire à ça. On est sur un territoire fragilisé, éventuellement menacé sur certains de ses aspects naturels, enfin, environnementaux et culturels, et en même temps, on prend le défi, on prend le challenge de transformer cette fragilité et ces menaces en projet de développement et un projet d'aménagement. Par ailleurs, il y a un autre aspect qui sera regardé, c'est la qualité du patrimoine puisque le patrimoine doit être au moins de rang national, si ce n'est de rang international, donc il faut travailler autour de qu'est-ce qui fait exception sur le territoire. Ça veut pas dire que le petit patrimoine bâti n'est pas intéressant. Ça veut dire que ça, on le trouve ailleurs, dans la région, y compris dans le territoire d'à côté. Donc, on peut travailler autour, mais ce qu'attend, et c'est la raison pour laquelle les financeurs le suivront, c'est qu'il faut qu'on s'attache aussi à travailler sur ce qui est exceptionnel sur le territoire. On en parlera tout à l'heure. Et enfin, dernière chose, la crédibilité du projet. Est-ce que le projet est crédible? Est-ce qu'on a eu des engagements suffisamment forts de la part des collectivités et des acteurs? Est-ce que les gens sont prêts à se serrer les coudes pour travailler autour du projet? Est-ce que malgré les différences, les dissensus, il y a quand même un petit dénominateur commun sur lequel les gens se retrouvent pour travailler pour les 12 années qui viennent? Donc, ils vont regarder la qualité du projet, on regarde donc de ces critères-là, et ils vont vérifier que le syndicat mixte et l'organisation qui aura été mise en place, et les moyens financiers qui vont être engagés de la part de la région, du département et des collectivités, est à la hauteur de l'ambition qui a été faite. Donc, il y a vraiment un examen très, très précis autour de ces critères que j'évoquais tout à l'heure, et en même temps, cette exigence et cette ambition qui peuvent paraître très compliquées pour chacun d'entre nous, c'est aussi le gage d'aller vers un projet de qualité et de s'inscrire dans la durée. On est parti pour 12 ans, à partir de 2010, donc jusqu'en 2022-2023, il y aura un tas d'actions qui se mettront en œuvre, avec tout le monde, avec la responsabilité des gestionnaires de l'économie, mais avec la volonté et les projets qui montreront du territoire, des acteurs et des socioprofessionnels. C'est l'objet de la réunion. Voilà, de manière assez rapide, je ne sais pas si j'ai respecté ma lumière, mais c'était un premier balayage très rapide sur l'ambiance, un peu, le cadrage un peu auquel on doit de toute façon, dans lequel il faut s'insérer. Maintenant, on s'invite, on ira sur les choses plus concrètes qui vous intéressent et qui vous intéressent. Est-ce qu'il y a des questions sur déjà ce premier panorama? Je m'excuse pour ceux qui connaissaient déjà le schéma, mais je suis sûr que tout le monde avait cette information. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de... C'est un peu techno. Hein. En fait, c'est pas un truc.
La charte de la régionale, elle est révisable.
Oui, elle est révisable. Vous pouvez même ne plus être classé. Il y a un parc qui n'a pas été reclassé, un seul, hein, sur 45, c'était le parc de Marais-Coisbrun. Mais vous avez un reclassement qui n'est pas automatique, c'est-à-dire vous avez une révision. Donc si vous avez votre label en 2010, vers 2020, vous enclencherez ce qu'on appelle une révision. Vous ferez le bilan de ce que vous avez fait. Vous ne ferez pas le bilan tout seul, vous ferez avec vos partenaires. Si l'État, si le conseil régional, si le conseil général juge que le bilan n'est pas bon et que le nouveau projet est encore en deçà des ambitions, des objectifs que l'on doit donner au parc, vous pouvez ne pas être reclassé. Hein, vous pouvez ne pas être loué. Donc il y a une révision tous les 12 ans.
Dans le cas d'un PLU sur une commune, par exemple, qu'est-ce qui prévaudra?
Ce qui prévaut, en fait, c'est de toute façon le plan de parc. D'où l'importance que le plan de parc soit conçu de manière partenariale avec les communes. C'est-à-dire qu'il faut s'y inclure, par exemple, parce qu'il y a des plus ou des postes qui sont un peu anciens, et l'actualité, qui se sont fait rattraper par l'actualité, le Grenelle de l'environnement 1 et 2, ça a remis les enjeux du changement climatique, etc. Ça a fait vieillir très naturellement certains plans d'occupation du sol. Donc le fait de rentrer dans un plan local d'urbanisme, déjà normalement, à travers le plan d'aménagement et de développement durable, qui est une espèce de mini-étude de préalable, on est censé déjà avoir augmenté l'ambition et la possibilité de prendre en compte l'enjeu du développement durable dans le plan local d'urbanisme. Si ça n'a pas suffi, à l'occasion des réunions de travail avec les élus locaux, si les élus considèrent qu'il est opportun d'aller encore un peu plus loin et d'être un peu plus ambitieux, on met le plan de parc à une certaine hauteur, sachant qu'il y a certains plus peut-être qui vont devoir faire un petit saut qualitatif pour raccrocher l'objectif général. Et dans la charte habituellement fixée, c'est que les communes, donc dans le document, on dit qu'il y a un enjeu de mise à niveau de certains documents d'urbanisme. Le plan de parc donne le tempo, On a vu qu'il fallait d'une manière générale essayer de préserver davantage les entrées des quatre villages, je dis n'importe quoi, hein, des quatre villages fortes. Et donc, dans la partie engagement des communes, ces quatre communes-là disent, bah, nous nous engageons dans la période des 6 ans qui viennent à réviser le plan local d'urbanisme pour le mettre à l'ambition du plan de parc. Donc en général, c'est plutôt dans ce sens que ça va. Alors, donc s'il y avait un match de foot, ce serait plan de parc qui gagnerait. Mais c'est le foot, donc le foot, il y a un certain minutes. Je ne suis pas très bon en foot, mais je ne sais pas. Sur un SCOT et un plan de parc, si le SCOT a déjà été ou est en cours d'élaboration, ce qu'il faut faire, c'est si c'est ailleurs, comme il faut qu'il y ait cohérence. Hein, il n'y a pas nécessairement de compatibilité juridique, mais il faut qu'il y ait cohérence. Il ne faut pas qu'il y ait incompatibilité. Sachant que la jurisprudence l'application des textes a mis énormément au jour de problèmes de jurisprudence, donc il faut éviter justement des problèmes d'arbitrage a posteriori. Donc l'idée qui est développée, c'est d'associer les gens qui ont en charge l'élaboration du schéma de cohérence territoriale, et les associer au travail d'élaboration de la charte, et d'engager un dialogue. Et là, de la même manière, soit le dialogue se fait en disant, ben, sur tel point ou tel aspect ou telle partie du territoire, le plan de parc voudrait être plus ambitieux et on se donne l'occasion des 12 années pour mettre à niveau, à l'occasion de la révision du SCOT, le SCOT à l'auteur du plan de parc, soit on profite, enfin soit on identifie une convergence de vues sur le SCOT actuel. C'est possible, parce que le parc naturel régional de la montagne de Reims s'est calé en très grande partie sur le SCOT des Pyrénées, puisque le SCOT était déjà très ambitieux. Il n'avait pas attendu sur la partie urbaniste, il n'avait pas attendu que le parc fasse sa révision. Mais comme le parc avait été associé à la révision du SCOT, il y avait déjà des choses qui avaient décidé du côté du SCOT. Hein. Donc, il y a des périodes de mise à niveau, hein, de concertation, pendant l'élaboration de la charte, et puis après, pendant la mise en œuvre de la charte, et au moment de la révision soit du SCOT, soit de la région. Alors, Natura 2000, en fait, il faut distinguer deux choses. Natura 2000, c'est à la fois un réseau d'espaces à l'échelle européenne sur lequel on considère qu'il y a des enjeux, et des enjeux notamment de préservation. Donc, à partir du moment où les espaces ont été identifiés pour l'État membre qui est la France, ces espaces-là doivent faire l'objet d'un document unique, d'un document de la DOCOM, un document d'objectif pour gérer comment on va occuper cet espace, comment on va y faire d'agriculture, tout en préservant, etc. Donc, normalement, au moment de création d'un site Natura 2000, on identifie le gestionnaire qui va devoir gérer les deux communes, mettre des finances de communes et ensuite gérer cet espace. Donc, soit le parc est responsable de la gestion du site Natura 2000, soit il n'est pas, parce qu'il y a déjà une structure qui a été identifiée, et à ce moment-là, le parc est un partenaire et essaye de mettre une harmonisation en fait à l'échelle de son parc, de son parc, en fait, de son territoire, sachant que Natura 2000 n'est pas le seul espace sur lequel on a des enjeux de biodiversité. Les espaces naturels sensibles, ENS, du Conseil général, c'est aussi des espaces qui ont été identifiés avec des enjeux particuliers. Et il y a comme ça d'autres espaces qui peuvent être identifiés comme des espaces à très forte potentialité environnementale et de biodiversité. Et le rôle du parc, ça va être, ben, d'être toujours un interlocuteur un petit peu de mise en commun, d'échange, de partenariat, éventuellement d'identification d'actions communes entre un site Natura 2000 et les villes de l'ENS. Enfin, donc, ça va être plus un coordinateur, un enfant guidé, essayer de porter et d'aider les gestionnaires d'espace, qu'ils soient ENS sur Natura 2000, ou une communauté de communes qui a déjà un espace Natura 2000, ou un conseil général qui gère un espace naturel français. Donc, le parc va plutôt avoir un rôle d'animateur si les choses ont déjà été un peu distribuées. En même temps, si jamais une communauté de communes, je l'ai vu dans un espace, si une communauté de communes avait pris la gestion du DOCOP et tire un peu la langue parce que c'est compliqué, ça demande beaucoup plus de travail que prévu, le parc va se préparer à prendre le relais et prendra le relais au moment de la révision de la charte. Donc, il faut travailler en intelligence et faire en sorte qu'on obtienne plus avec le parc plutôt que moins.
Vous nous avez expliqué fort bien que la charte était opposable, enfin, en tout cas qu'elle s'imposait au POS et au PLU, au SCOT évidemment, et nous, dans la Maritime, nous sommes détenteurs d'une DPA. dont on dit qu'elle pourrait, selon l'évolution voulue par le Védal, elle pourrait ne plus avoir de causabilité. Alors, comment ça va situer la charte par rapport à la DTA?
Pour l'instant, la DTA s'impose au parc, au plan de parc. Donc, pour l'instant, il faut prendre ce qu'il est. Hein. C'est les lois et enfin, les parlementaires. Hein. Le contexte juridique et parlementaire peut changer. Donc, pour l'instant, on prend acte de ce qu'il est. Hein, et s'il y a un changement, eh ben, on avisera. Mais comme on n'est pas responsable, eh ben, en l'occurrence, par exemple, si la DTA devait changer de statut, de toute façon, ce ne serait pas le cas uniquement pour Préalpes d'Azur, parce qu'il y a d'autres DTA en France, et il y a d'autres parcs qui sont concernés par les DTA. Donc, il y aurait une directive, une circulaire, ou en tout cas, un guide de travail pour savoir comment mettre en œuvre. Mais a priori, il faut travailler avec ce qui est déjà existant, parce que sinon, on risque de travailler sur des hypothèses et. Vous mieux travailler sur ce qui est sûr. Encore une fois, c'est votre première charte. On fait à 30 ans de charte. Bon, peut-être qu'on discourrait d'une manière un peu différente. C'est la première charte. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est faire pas trop large, pas trop démesuré quantitativement, mais par contre, exigeant et ambitieux sur les quelques points sur lesquels vous voulez travailler. Parce qu'encore une fois, dans 10 ans, c'est ce que disait monsieur, il y aura une révision. Et si vous en avez mis comme ça, le ventre plus gros que les yeux plus gros que le ventre, et que finalement, vous n'avez pu faire que 10 ou 20%, ça va vous être reproché, et bon, il faudra le gérer, quoi. Donc il vaut mieux dire, je concentre mes moyens, et en plus vous aurez plus facilement le concours des cofinanceurs, parce qu'ils verront bien que vous ne vous concentrez vos moyens sur certains des... Bon, enfin, moi je suis pas en haut, hein. Je suis province, hein. Pas de décision en haut, par exemple. Est-ce que pour ceux qui rendent des solutions, de toute façon, on reparlera éventuellement tout à l'heure à la vérité s'il y a des questions, mais bon, autant faire parvenir les questions maintenant collectivement.
Le conseil scientifique, il se met en place automatique ou il est sur projet seulement?
Alors, le conseil scientifique, il est global sur l'ensemble de la charte. Donc, en fait, il faut que le syndicaliste identifie et invite un certain nombre de scientifiques au regard de sa stratégie. Donc dans un mois ou deux, on y verra un peu plus clair sur quelles sont les priorités. Il faudra certainement des représentants du monde, enfin, des sciences humaines et sociales et des sciences qui sont plus dures, actuellement, sciences dures et sciences humaines et sociales. Donc il faudra identifier des personnes qui peuvent suivre et participer à certains travaux. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est de se rapprocher d'autres syndicalistes qui ont des conseils scientifiques, comme le GERCORP, comme les Camargue, voilà, vous dites comment ça marche, etc. Nous, on peut vous dire, hein, comment ça marche, mais l'idée, c'est de tirer les expériences des autres, parce que du coup, c'est plus facile de rentrer en contact avec des universitaires si on leur dit comment ça marche dans votre conseil scientifique. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, d'essayer de réfléchir, donc on a prévu un groupe de travail là-dessus, de réfléchir sur la question de la gouvernance du sein de la charte. Hein. La gouvernance, je le disais tout à l'heure, la responsabilité juridique et administrative, elle est le fait du syndicalisme de gestion. La responsabilité, la participation scientifique, elle remonte du conseil scientifique qu'on va solliciter. Il y a des experts à la Direne, il y a des experts concernant les grandes collectivités, mais le fait de mobiliser des scientifiques va venir apporter un peu de neutralité, voire de poil à gratter sur un certain nombre d'actions auprès des équipes. Alors ils sont surtout poil à gratter au bout de 10-15 ans parce que les équipes techniques, je vous dirais, les équipes techniques au bout de 15 ans, elles sont rodées, elles connaissent le truc, etc. Et il faut qu'il y ait des gens un peu extérieurs, mais spécialisés, qui viennent les titiller en disant, attendez, là, vous dites d'accord, c'est très bien ce que vous avez fait avec cette partie-là, les habitats, mais vous avez oublié telle espèce, ou vous ne pensez pas aux problèmes. Le sens humain prend souvent un thème un peu en friche, quoi, hein, dans les parcs naturels régionaux. Donc c'est pas mal d'avoir un universitaire des sciences humaines ou des sciences sociales pour venir titiller. Donc là, on fera quelques propositions, mais il faut que le syndicat mixte prenne un peu des retours d'expérience de 2-3 conseils scientifiques existants et ensuite propose un modèle de fonctionnement et invite quelques universitaires. Bon, il ne faut pas non plus qu'il y ait 20 scientifiques, hein, une petite dizaine dans un premier temps, c'est largement suffisant pour pouvoir. Après, il peut y avoir des actes de volontariat. Hein, dès lors qu'on va avancer, je pense qu'il y a des les universitaires qui vont s'y manifester auprès de... Enfin, habituellement, c'est comme ça qu'on a des études qui vont au sein du CNU, en disant, j'ai entendu parler du projet, vous allez mettre votre pensée scientifique, vous avez réfléchi à son règlement intérieur, qu'est-ce qu'il va faire? Et à ce moment-là, il y a un petit groupe de travail, et puis, c'est moi, je vais faire ça. En fait, il y a ce qui est possible juridiquement et ce qui se fait parce qu'on s'est cassé les dents en voulant essayer d'appliquer la loi. En voulant appliquer le maximum de la loi. Le maximum de la loi, c'est qu'il n'est pas interdit d'avoir des syndicats mixtes ouverts et élargis à des établissements publics, pas à des structures privées. Hein. Il y a d'autres partis qui se sont essayés et ça a fini à l'Assemblée nationale, vote une loi spécifique et remettre tout le monde dans le rang qui est syndicaliste. Donc la seule solution possible est liée à ce syndicaliste. Dans les syndicalistes, vous avez les syndicalistes fermés qui sont uniquement de la responsabilité et donc ouverts aux collectivités locales. Donc il y a une représentation, il y a des délégués en fait des communes et des communautés de communes. Ou du conseil général ou du conseil régional, donc ce ne sont que des collectivités territoriales qui sont représentées. Il y a toujours la possibilité de faire un ouvert élargi aux établissements publics. C'est un petit peu plus complexe et très souvent source d'ennuis fiscaux et financiers. Donc essentiellement des problèmes, par exemple, vous ne récupérez pas la CVA, etc., etc. Donc c'est à usage, il y a quand même plus de 90% des parcs qui sont des syndicats mixtes fermés pour des raisons de gestion financière et fiscale. Par contre, il y a une association des socioprofessionnels au niveau de la vie du parc, soit à travers des commissions, soit à travers des forums annuels, soit à travers des relations directes qu'ont certains socioprofessionnels en direct avec les techniciens. Et donc, ça se fait plutôt de manière moins formelle et moins administrative que le syndicalisme, qui est quand même très encadré par une loi 73, qui a été revue, mais c'est voilà, donc. Devant l'enthousiasme, moi je suis toujours très enthousiaste, hein, donc je suis plutôt tendance à dire d'ailleurs, tout le monde. Et après la mise en œuvre, c'est plutôt contre-productif. Il vaut mieux réfléchir à qu'est-ce qu'on veut ensemble, et après on trouve les outils et les moyens. Non, il n'y a pas de changement. Les syndicats mixtes, les groupements de communes sans fiscalité propre n'ont pas de possibilité de lever l'impôt. Donc en fait, les seules ressources du syndicat mixte, ce sont les ressources des autres collectivités pour le fonctionnement, financer les salaires de l'équipe technique, et puis le financement des autres partenaires ou des mêmes collectivités sur des programmes d'action. Donc on pourra cofinancer des actions, un programme d'action sur la politique de l'eau, sur un secteur sensible, ça peut être cofinancé par l'agence de l'eau, ça peut être cofinancé par l'État, ça fera des actions concrètes. Le syndicat mixte, c'est vraiment un syndicat de gestion de fonds qui ne sont pas prélevés par la société.
Est-ce qu'on assistera à des transferts de responsabilité du Conseil général de direction?
A priori, d'un point de vue juridique, a priori c'est pas possible du point de vue des compétences. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transférer une compétence en tant que telle d'une collectivité à une autre quand c'est un cadre législatif national. Par contre, ce qui peut, c'est la mise en place de partenariats entre un conseil général et un parc pour assurer un travail mieux et plus précis ou plus local. Je prends par exemple un autre cas en France où en fait le Conseil général est en train de passer un accord avec le parc pour pouvoir plus facilement gérer ces espaces naturels sensibles parce qu'il n'y a pas de gens, c'est sur un grand département, donc il n'y a pas de gens et de personnel pour pouvoir être de proximité, donc il passe une convention et donc il y a une mission un petit peu de délégation de certaines fonctions au parc naturel régional. Mais ça c'est en fonction des besoins, c'est ce que je disais, c'est quel est l'objectif et qu'est-ce qui est le mieux pour, enfin, qu'est-ce qui est le moins cher ou le plus efficace? Donc c'est de la négociation. Les parcs, hein, c'est pas contraint, tout à négocier, quoi. Hein, c'est de la discussion, c'est convaincre plutôt que contraindre. Hein, regardez, on aurait tout intérêt à travailler dans ce sens parce que vous voulez bien travailler avec nous. Donc le parc, c'est un lieu, ce sont des moments de réunion, travailler autour de projets ensemble et débloquer certaines situations qui tout seul peut-être fonctionnerait moins bien. Il y a un certain nombre de réflexions qui sont en cours sur l'organisation territoriale française, mais je ne veux pas m'avancer sur des choses qui concernent des points très spécifiques sur les parcs naturels régionaux, parce qu'encore une fois, je risque de dire des années. La réalité, c'est qu'il y a des partenariats possibles et effectifs actuellement entre les collectivités et les syndicats mixtes. Pour des raisons pratiques, le résultat, l'efficacité, voilà, c'est plus efficace quand on a une équipe technique qui connaît, qui voit les maires plus facilement, qui est sur place, est-ce que vous pouvez vous occuper, pas de tout, mais de qualité d'accès. Il y a des conseils en des CAUE, conseils en architecture, urbanisme, environnement, qui travaillent main dans la main avec, avec le parc. Il y a même des chambres d'agriculture qui passent en commun des actions communes pour avoir du personnel sur qualité d'action. C'est au cas par cas.
Il y
aurait une question de territorialité, c'est vrai
que ça
ne
pourrait pas être
sur une territoire du département. Ouais. Je pense que c'est vraiment sur des cas particuliers à chaque fois et sur des programmes. On a fait le tour ou il y a encore d'autres questions? Ok, donc à ce moment-là, je vais passer la parole à la dernière personne dans la liste. Je passe la parole à Raphaël. Donc en fait, sur la deuxième partie, on va plus parler du territoire, puisqu'en fait, il y a une synthèse à la fois du diagnostic du territoire et de l'enquête, puisque vous avez été une petite centaine à répondre à un questionnaire. Donc ce qu'on vous propose, c'est de discuter autour de certains des enjeux. On esquisse un peu le travail qu'on fera en commission le 13 mars, mais on aimerait un peu prendre la température de votre côté sur certains des enjeux économiques, environnementaux, voir si vous êtes d'accord sur certains des éléments de diagnostic ou d'enjeux qui préfigurent les actions et les orientations de travail. Donc je laisse la parole à Raphaël Bocuse.